12h35 sur RTCI. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bonne fête encore une fois à toutes les femmes tunisiennes, qu'elles soient en Tunisie ou ailleurs. Et tout de suite, justement, le portrait d'une success story tunisienne. Elle s'appelle Amel Karoul. Elle est fondatrice et managing partenaire du bureau Change Leadership et Partner, l'un des plus grands cabinets internationaux spécialisés en changement et leadership. Elle a réalisé un long parcours durant lequel elle a acquis une solide expérience en qualité de consultant international et de dirigeant exécutif. Elle est également professeur visiteur et membre de la Société de gestion stratégique et de la Fédération internationale de coaching. Elle est avec nous en direct de Londres, Amel Karoul. Bonjour.
Bonjour,
Alors,
Madame
bonjour, vous dirigez à partir de Cologne en Allemagne l'un des plus grands cabinets internationaux spécialisés en changement et leadership, le bureau Change Leadership and Partners. Si vous nous présentez le concept de votre cabinet.
Oui, en fait, notre cabinet, il est spécialisé dans tout ce qui est implémentation de change. Parce que, vous savez, c'est très facile d'avoir des concepts, de faire une analyse, une diagnostic, d'avoir des idées. Mais tant qu'on n'a pas implémenté ces idées, rien n'est fait. Et en fait, généralement, les gens sous-estiment, même les grandes boîtes, combien de temps il faut, combien d'énergie il faut pour implémenter ces idées. Il y a beaucoup aussi des côtés... qu'on appelle soft. Moi, j'aime pas du tout le mot soft. J'aime plus fort hard parce qu'en fait, le côté implémentation, c'est difficile. C'est médiation de conflits. Vous avez des différents stakeholders, des différentes personnes avec des différents intérêts qu'il faut bridger. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts. Et surtout avoir une grande intelligence émotionnelle, pas seulement une intelligence intellectuelle.
Amel Karoul, vous êtes tunisienne de naissance et d'éducation. Comment est-ce qu'a débuté votre aventure et pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer votre carrière à l'étranger et pas en Tunisie?
Oui, c'est bon. Bien sûr que dans la vie, vous savez, on voit, quand on voit à l'arrière, on voit un certain fil. En avant, on le voit pas toujours. Oui, j'ai toujours voulu être ingénieure, au fait, mais peut-être que c'est aussi une l'éducation et la sociologie de Tunisiens de ma génération. Si on faisait des études, c'était pour devenir ingénieur, médecin ou avocat, ou je sais pas quoi. On n'avait pas toute cette créativité qui existe aujourd'hui avec tous les différents études qu'il y a. Et après mes études, j'ai commencé à travailler pour Mercedes. Ils avaient un groupe de jeunes qu'ils appelaient doués pour devenir exécutifs, pour devenir des managers. Et ils m'ont employé là-bas. J'ai travaillé pour en Afrique du Sud. Et au fait, en travaillant chez la boîte de Mercedes et après la fusion avec Chrysler aux États-Unis, j'ai découvert que les plus grands projets, les plus grandes stratégies ne sont intéressantes que quand elles sont vraiment implémentées. J'avais la responsabilité, au fait, de faire le transfert de knowledge entre les États-Unis et l'Allemagne pour leur projet de recherche. Et là, j'ai vu comment c'était difficile et ça m'a passionnée parce que c'était un mélange entre psychologie des personnes, une compréhension du business, une réflexion sur les valeurs humaines qu'on a, une médiation de conflits, voire des différentes cultures. Et donc, c'est éclectique. C'était un mélange entre business, engineering, psychologie, sociologie, presque philosophie. Et ça m'a vraiment passionnée. Et donc, j'ai eu la chance de le faire chez Daimler Chrysler et après aussi dans une grande boîte, Boston Consulting Group, de stratégie. De me spécialiser dans ce qu'on appelle le change leadership ou le change management. Ouais.
D'accord.
Et voilà, et après, j'ai eu beaucoup de clients internationaux et j'ai connu mon mari en Allemagne et puis la vie s'est développée d'ici. Mais on a ouvert un petit bureau à Tunis il y a quelques années et on essaye surtout, on travaille sur comment engager des hommes et des femmes d'affaires tunisiennes pour leur offrir un network de connaissances dans d'autres pays arabes et aussi avec l'Allemagne. Et c'est la quatrième ou cinquième année où on fait un assez grand event. Cette année, il va être à Abu Dhabi où on encourage Voilà, aussi les femmes et les hommes d'affaires tunisiens.
D'accord. Donc c'est un domaine qui marche aussi, hein, qui est pratiqué en Tunisie, le coaching, la consultation. Quand on a des clients comme Mercedes-Benz, vous avez nommé, je ne sais pas, Deutsche Telekom, Daimler, DuPont, Lufthansa, c'est pas peu. Quels sont les ingrédients du succès selon vous? Quels sont les ingrédients de votre succès?
Oui, en fait, je
C'est
crois qu'il
beaucoup
faut
de
être
travail
passionné parce
d'organisation, c'est
que.
certainement pas une baguette magique, hein.
Non, pas du tout. D'abord, il faut être vraiment passionné pour ce qu'on fait. Moi, j'ai vraiment changé dans ma vie quand j'ai quitté Mercedes. Vraiment, j'ai quitté une très grande carrière. Tout le monde était étonné. Pourquoi est-ce que tu y vas? Ou quand j'ai ouvert ma boîte à même. J'avais toujours des grandes marques derrière moi. Et donc, après, parfois, il faut prendre un risque. Vous savez, il faut croire à ce qu'on fait. Il faut pas toujours se laisser influencer parce que d'autres personnes pensent et il faut être très passionné parce qu'en fait il faut travailler très dur aussi, hein. Il n'y a rien qui vient comme ça. Et il faut se former parce que comme en étant coach, consultant, c'est pas une expertise, c'est pas une baguette magique, mais c'est aussi les questions qu'on pose aux gens. Et pour pouvoir poser beaucoup de questions, pour pouvoir avoir une réflexion externe, pour pouvoir voir des choses comment elles marchent, il faut aussi se former. Donc j'investis jusqu'à 15 jours par an en formation pour moi-même. Et maintenant, je continue à Oxford et j'investis là, pour le moment, vraiment beaucoup de temps, presque pendant tout l'été, 20 heures par semaine, rien que pour me former. Après, maintenant, je viens d'avoir mes 10 000 heures de coaching après 10 ans que j'ai
Félicitations.
pratiqué. Et pour moi, il faut vraiment rester voilà, au devant de formation, du knowledge. Et voilà, travailler dur, être passionné, s'accrocher, ne pas se laisser aller par des critiques. Parce que quand on a du succès, il y a toujours des gens qui critiquent ce qu'on fait. Et là, il ne faut pas être trop sensible, peut-être.
En tout cas, nous sommes fiers que la femme tunisienne soit représentée par des femmes comme vous, la femme active,
Merci.
la femme mère de famille également. Et vous êtes maman de deux filles. Comment est-ce que vous parvenez à concilier une vie professionnelle aussi active et une vie familiale?
C'est
C'est
vrai,
quoi
mais en fait, ça, c'est un peu
votre
partout dans le
secret?
monde parce que je viens d'avoir un Skype hier avec une amie tunisienne qui est professeure d'université à Tours. Et c'est drôle, on trouve qu'on a les mêmes challenges, au fait. Bon, bien sûr que d'abord, mon mari et moi, on essaie de ne pas voyager en même temps. Donc, on a un calendrier électronique qui est géré d'une manière très germanique pour qu'il y a souvent quelqu'un ici avec les filles. Et puis. Au fait, j'ai eu une première boss américaine à Chrysler qui m'a beaucoup impressionnée. C'était une African American, une femme noire qui est allée à l'école aux États-Unis dans les années 50, où vraiment les gens changeaient le côté du trottoir, hein, quand ils la voyaient. Donc elle a vraiment, elle avait une vie très riche. Et elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, tu sais, Amel, quand tu vas avoir carrière et enfant, il faut avoir un grand focus et ne faire rien que toi, tu ne vas pas faire. Et donc, il faut vraiment déléguer beaucoup. Et ça, elle me l'a dit au début de ma carrière et ça a beaucoup aidé. Ça veut dire que j'essaye, bien sûr, au travail, avec les enfants, d'avoir ce qu'on appelle les quality time, de passer avec eux du temps. Et j'essaye de toutes les choses que moi, je ne dois pas faire, de laisser tomber. Et en plus, parfois, il ne faut pas être trop perfectionniste dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que je suis un peu perfectionniste au travail, mais le reste, il faut être cool. Parfois, je joue avec les enfants et c'est un peu le chaos ailleurs. C'est pas grave, en fait.
Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'être une femme dirigeante, ça relève plutôt du parcours du combattant.
C'est vrai qu'il y a des moments très durs. C'est vrai qu'on est parfois vulnérable aussi. Je me rappelle quand j'étais vraiment enceinte avec ma deuxième fille, j'avais des difficultés. Et c'était la crise économique, il fallait prendre beaucoup de décisions. Vous imaginez, on est à l'hôpital à 9 mois et être au téléphone avec des clients. C'était vraiment des moments où j'étais vulnérable, où j'avais vraiment besoin de ma famille qui m'a beaucoup supportée, mes parents, ma sœur, mon mari. Et ça a toujours été un point fort. Je pense qu'au fait, il y a une réflexion qui m'aide beaucoup et que moi je conseille à beaucoup de femmes de faire parfois. Il y a une réflexion que j'ai dit, j'imagine j'ai 95 ans, peut-être que je vais mourir bientôt. Et là, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, en fait. Et si ML Kerboul, qui a 95 ans, qui n'a rien à prouver, qui a vécu sa vie, elle me donnerait un conseil, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et parfois, au fait, j'ai des entretiens avec moi-même, qui a 95 ans, qui n'a rien à prouver, qui a eu sa vie derrière elle. Et ces conseils sont vraiment d'une grande qualité. Et c'est un exercice aussi, ou une réflexion que je fais parfois avec mes clients, et qui trouve toujours très enrichissant. Et donc, parfois, il faut prendre du recul de soi-même. Mmh. Et de sa vie de tous les jours, en fait. Mmh.
Aujourd'hui, Emel Kalboul, nous célébrons la fête de la femme tunisienne. Vous êtes citoyenne du monde, mais vous êtes tunisienne avant tout. Comment vous voyez la situation de la femme tunisienne aujourd'hui? Quels sont les défis?
D'un côté, vous savez, je suis optimiste et rassurée, puisque je pense que la femme tunisienne a plus que d'un tour dans son sac. Bien sûr qu'il y a des sujets d'inquiétude. Je vois les libertés menacées avec les projets de constitution bridant les droits des femmes et une régression que moi je trouve dangereuse, parce que je vois vraiment, je vais en Inde, je vais en Malaisie, en Indonésie, l'un des grands pays musulmans du monde, au Brésil, partout, et je vois une très grande ouverture, des gens qui sont très curieux, qui veulent apprendre, qui veulent avancer, et il y a parfois une régression que je vois vers un système un peu patriarcal et qui risque les acquis de la femme, mais là... Tout ce que je vois qui se passe dans la société civile, moi je suis très impressionnée. J'essaie de parler non seulement à des femmes tunisiennes que je connais, des amis, je parle aussi à des femmes qui viennent d'une couche sociale plus simple, même quelques femmes analphabètes, qu'elles sont très conscientes et qu'elles ne vont pas se laisser faire, et très courageuses. Et aussi, elles se défendent, elles sont bien organisées. Moi, je me dis, bien sûr que ça m'inquiète et que je vois un risque de radicalisation, de régression, mais je suis optimiste. Je dis que c'est impossible de faire marche arrière et que toute l'histoire, en fait, si on prend un recul de 3000, 4000, 5000 ans, c'est peut-être le recul qu'on fait pour soi-même. En histoire, il faut prendre un recul encore plus loin et on voit que tous ceux qui ont essayé de faire marche arrière, ils n'ont jamais réussi. On peut pas arrêter, en fait, l'histoire. On peut pas arrêter le progrès.
Merci beaucoup pour cette note optimiste, Emel Kalboul. Encore une fois, bonne fête.
Merci, bonne fête à toutes les femmes tunisiennes et bon courage, il ne faut pas se laisser faire.
Merci beaucoup, au revoir.